Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosolytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx. Les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En cet été de 1789, la Révolution française a tout emporté, ou presque, sur son passage. Dans l'espoir de surmonter la crise qui mine le royaume, Louis XVI a convoqué les États généraux le 5 mai. Le 17 juin, le tiers-État, c'est-à-dire les représentants du peuple, s'est institué en Assemblée nationale. Bientôt rejointe par le clergé et la noblesse, cette Assemblée s'est déclarée constituante le 9 juillet. Dans la nuit du 4 août, tous les privilèges sur lesquels reposait le système féodal millénaire ont été abolis. Enfin, le 26 août, l'Assemblée a adopté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et s'il est bien un manifeste qui a marqué l'histoire, ce sont les 17 articles de cette déclaration. Ils posent en effet de façon solennelle les principes d'un système politique radicalement nouveau: égalité civile et politique de tous les citoyens, souveraineté nationale, démocratie représentative, pour s'en tenir à l'essentiel. La royauté n'est pas encore renversée, mais la souveraineté monarchique est déjà abolie. Au gré des soubresauts de la Révolution, de nouvelles déclarations des droits seront édictées, 1793, 1795, mais l'histoire ne retiendra en définitive que celle de 1789. Et depuis deux siècles, elle a essuyé bien des critiques de toutes sortes, mais elle y a résisté et a traversé tous les changements institutionnels français, au point de devenir la référence explicite de nos deux dernières républiques, la 4e en 1946, la 5e en 1958. Mieux, elle a servi de matrice à la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'ONU en 1948, ainsi qu'à la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Pour nous éclairer sur à la fois la nature et la pérennité de ce texte fondateur, nous avons le plaisir d'accueillir Justine Lacroix. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez notamment publié en 2016 « Le procès des droits de l'homme, généalogie du scepticisme démocratique » et en 2019 au Seuil « Les droits de l'homme rendent-ils idiots ?» Bonjour Justine Lacroix.
Bonjour.
Et également avec nous, Lucien Jaume, vous êtes directeur de recherche au CNRS, chargé de cours à Sciences Po, spécialiste de l'histoire des idées sous la Révolution française, de Tocqueville et du libéralisme, ainsi que des rapports entre l'État et les religions. Et vous avez notamment publié « Le discours jacobin et la démocratie » et aux éditions Garnier, un classique, un recueil commenté de toutes les déclarations des droits de l'homme. Bonjour, Lucien Jaume.
Bonjour.
Alors, avant d'en venir au contenu même de la déclaration de 89, dites-nous, on ne pourra pas y passer trois heures, hélas, mais dites-nous en quelques mots comment et par qui cette déclaration a été élaborée. Lucien Jaume.
La déclaration a été élaborée par l'Assemblée constituante. À la différence de ce qui va se passer en 1793, on ne fait pas appel à des concours extérieurs à l'Assemblée. Par contre, en 1793, 400 projets de déclaration sont adressés par les citoyens à la Convention, à l'Assemblée. Donc là, ce sont des députés de la Constituante qui travaillent. Ils travaillent par groupe de travail.
Il y en a combien de députés?
Alors, je ne me souviens plus.
1200, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pour dire que l'Assemblée est très nombreuse.
Voilà. C'est ce qui est très remarquable, c'est qu'ils travaillent par votation successive sur les articles qui ont été préparés dans des commissions concurrentes. Et c'est finalement un bureau qui a été choisi principalement, qui obtient la majorité de l'assentiment. Il faut signaler que, bien sûr, il y a des ténors, mais il y a aussi d'humbles députés qu'on connaît à peine qui vont contribuer à ce texte. Il faut signaler aussi qu'à contrairement à une légende courante, le libéralisme aristocratique contribue fortement aux articles les plus importants de cette déclaration, puisqu'il y a une noblesse libérale dans cette assemblée qui appuie le processus révolutionnaire. Donc c'est un texte un peu, on dirait, de briques et de brocs, mais pas du tout en fait, mais on aurait tendance à le dire, parce que c'est composé par des ajouts, par des collages. Il n'y a pas un cerveau qui a pensé d'un bout à l'autre l'ensemble. L'assemblée découvre au fur et à mesure ce qu'elle veut. Et il y a des discussions, il y a des tensions, et on vote, et on vote, et on vote. C'est vraiment le texte issu d'une délibération démocratique.
Et alors, elle est introduite, cette déclaration, Justine Lacroix, par un préambule qui la place sous les auspices de l'être suprême. C'est une concession à la religion catholique, c'est quoi ?
Alors, Lucien Jaume, qui a consacré des écrits importants au rapport entre religion catholique et monarchie, pourrait peut-être nous éclairer mieux là-dessus, mais je crois qu'il faut juste garder à l'esprit, de façon très simple, que l'athéisme n'est pas une option en 1789. Je pense que pratiquement aucun des révolutionnaires ne se réclame de l'athéisme, et les penseurs dont il se réclame, hein, même Voltaire, malgré son anticléricalisme, condamnait l'athéisme. Et je dirais, il me semble que se revendiquer de l'être suprême, est-ce que c'est pas une façon, au fond, de choisir un terme consensuel qui peut être commun aux catholiques, commun aux protestants, commun aux déistes aussi, qui ne refuse pas la possibilité d'une présence divine, mais qui n'accepte pas le tableau théologique complet de l'Église catholique. Et donc, ça permet, si vous voulez, de réunir tout le monde, tout en inscrivant, finalement, la dignité de l'homme en référence à une présence divine.
Avec cette idée de la liberté de conscience, enfin la liberté même religieuse, puisque ça arrive au bout de l'article,
oui,
Lucien Jaume.
Oui, oui. Même religieuse en effet, et les protestants ont un rôle important dans cette assemblée d'ailleurs. Mais le grand problème de cette assemblée, si on dit deux mots sur la religion, le grand problème, ça va être la constitution civile du clergé de 1791, qui est une catastrophe, parce qu'elle prive l'Église catholique de toutes ses bases, elle détruit son édifice, elle soumet les évêques et les curés à l'élection par les citoyens dits actifs, c'est-à-dire les plus riches, elle supprime les diocèses qu'elle remplace par les départements, elle coupe ce clergé du pape de Rome, bref, ça va être le drame du schisme de l'Église, et ça va être le drame de la Vendée, ça va être le drame des déportations de prêtres. C'est l'un des échecs terribles de la Révolution, d'où ensuite le concordat de Napoléon.
Vous évoquez le pape, mais effectivement, qui va condamner la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution qui en découlera.
La Constitution civile, clergé. Les deux.
Oui, oui. Les deux. En deux ans plus tard, en 1791.
Oui, oui.
J'ai rappelé brièvement, Lucien Jaume, le déroulé de ces événements de l'été 89. Si on voulait résumer la chose, en quoi est-ce que cette déclaration est un acte ou un fait révolutionnaire ?
Je dirais trois aspects. Fondement, légitimité et droit naturel antérieur à l'État. Alors, fondement, c'est une révolution de la table rase, ils le disent eux-mêmes. On rejette, dit-on, totalement l'ancien régime. Et on va apporter un nouveau fondement, c'est le contrat entre les citoyens. Les citoyens sont la base de tout, la souveraineté de la nation. Légitimité, il ne peut y avoir de loi, il ne peut y avoir de normes, il ne peut y avoir de pouvoir exécutif que s'ils sont légitimes. Et quelle est la source de la légitimité ? C'est la volonté du peuple. On dit la nation en ce moment-là, d'ailleurs. Et enfin, troisièmement, des droits antérieurs à l'État. C'est-à-dire que si le citoyen et la citoyenne, car quand même les femmes, ils y pensent sans les nommer.
On y viendra.
Si les citoyens et les citoyennes ont des droits naturels, cela veut dire que l'État n'accorde pas ces droits. Ces droits préexistent aux politiques, comme chez John Locke, où l'on voit une puissance de résistance à la loi, aux députés, au pouvoir exécutif, grâce au droit naturel et à la loi naturelle, avant le politique.
Et c'est pour ça, Justine Lacroix, qu'on parle des droits de l'homme et du citoyen. C'est quelque chose qui se lie, alors qu'aujourd'hui, de manière courante, on dit la Déclaration des droits de l'homme et on oublie souvent le citoyen.
Oui, alors moi ce que je dirais, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette déclaration, il y a deux dimensions. Il y a celle effectivement que vient de rappeler Lucien Jaume, c'est donc l'affirmation selon laquelle tout homme a naturellement certains droits qui imposent des limites au pouvoir de l'État. Je veux dire que c'est une affirmation qui est à la fois nouvelle et pas tout à fait nouvelle. On la trouve déjà dans la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. La déclaration française, elle radicalise cette ambition universaliste. Mais il y a une autre dimension qui a notamment été très très bien mise en valeur dans l'ouvrage de Marcel Gauchet, La Révolution des droits de l'homme, où il montre qu'il y a en plus de ça, le souci d'instituer un corps politique nouveau, d'où la référence à toute la notion à la notion d'impôt, la notion de puissance publique, de pouvoir public, d'administration publique. Donc il ne s'agit pas seulement, au fond, de dire, voilà, tout homme a des droits. Il n'y a pas seulement cette dimension universelle, il s'agit aussi de reconstruire un nouvel État après la fin du principe de légitimité de monarchie absolue, de droit divin.
Arrêtons-nous quand même un instant sur les droits et le dispositif politique ensuite. Mais alors, ces droits, ils sont énoncés dans la déclaration, c'est l'article 2. La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'agression.
Alors, plus, l'égalité, on ne le dit jamais dans l'article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Égaux en droit, c'est l'égale liberté. Quand on dit que l'égalité n'est pas dans la déclaration de 89, c'est faux. Elle est au point de départ.
Tout à fait. Et elle est même le socle des autres libertés.
Elle est même le socle de toutes les libertés.
Voilà.
Une égale liberté.
Et elle se traduit d'ailleurs par l'égalité, par exemple, devant l'impôt.
Devant l'impôt.
Elle se décline dans la déclaration. Mais alors si on revient sur ces quatre libertés énoncées à l'article 2, arrêtons-nous par exemple sur la propriété sur laquelle la déclaration revient dans son article 17 de manière plus précise.
Exact.
C'est quoi ? C'est la révolution bourgeoise, 1789 ?
Oui, mais aujourd'hui, quand nous employons cette expression, nous mettons un contenu péjoratif. À l'époque,
pas forcément.
La bourgeoisie, à l'époque, c'était une immense avancée, à savoir qu'on avait aboli les droits, enfin on avait aboli, on va abolir les droits féodaux, on va créer la possibilité pour tout individu d'accéder à la propriété. En fait, c'est un droit révolutionnaire, la propriété. Comme John Locke, de son côté, l'a bien compris. Car quand il énonce ce qui fait le sujet humain, il dit que ce sujet humain est capable de liberté, est capable de réflexion sur soi, et est capable de propriété. À commencer par la propriété de soi-même, dit Locke.
Vous êtes d'accord avec ça,
oui,
Justine Lacroix ?
Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense, ça répond aux impératifs bourgeois, mais le concept de propriété est beaucoup plus large que ça, et ça renvoie surtout et avant tout, en tout cas chez Locke, à la notion de propriété de soi, et donc l'appropriation aussi par le travail. C'est une notion beaucoup plus complexe que celle, pas la caricature qu'on peut avoir aujourd'hui à l'esprit.
Et là, Justine Lacroix, le mot de sûreté à l'époque, ça désigne quoi ? Le droit à la sûreté ?
Alors, la sûreté, ça, c'est une notion extrêmement importante qu'on trouve chez Montesquieu d'abord, et puis chez surtout César et Beccaria qui publient le traité des délits et des peines 20 ans à peu près avant la déclaration. Et au fond, la sûreté, c'est le fait d'être protégé, je dirais, de l'arbitraire de la puissance publique. Je pense que c'est ça principalement qu'ils ont en tête, c'est-à-dire c'est au fond l'idée que, et c'est décliné dans la suite de la déclaration, le respect de la présomption d'innocence, le fait de ne pas pouvoir être condamné hors des cas prévus par la loi, etc.
C'est ça plus que la sécurité personnelle. C'est d'abord la protection contre l'arbitraire.
Moi, j'ai un peu travaillé sur ce concept. À vrai dire, ce que j'ai bien, si j'ai compris, au XVIIIe siècle, ça renvoie aux deux dimensions. C'est-à-dire à la fois, c'est au fond une tranquillité d'âme, nous disait Montesquieu, qui consiste à savoir qu'on est protégé de l'arbitraire de la puissance publique, mais aussi de l'arbitraire du plus fort, des agressions et des vols. Mais dans la déclaration, le droit à la sûreté renvoie, me semble-t-il, d'abord et avant tout à toutes les garanties juridique contre l'arbitraire de l'État. Et c'est d'ailleurs le sens que ça a gardé dans les déclarations contemporaines. Hein, le droit à la sûreté dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est en fait, ça renvoie aux conditions à respecter pour priver quelqu'un de sa liberté, donc pour le mettre en prison.
Et alors, dans cette rédaction qui est faite par ces députés nombreux et pour certains anonymes, cette élaboration collective, est-ce que d'emblée il y a le sentiment qu'on parle pour l'universel?
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que le projet même de la déclaration est un projet d'abstraction d'abord. C'est-à-dire, on ne parle pas de quelqu'un qui a une propriété, qui est d'une région de France, qui parle, je vous rappelle qu'on ne parle français qu'à peu près à 80 km autour de Paris, hein, qui n'a pas de sexe, qui n'a pas de métier, qui n'a pas de religion. Aucune attache individualisante ne fait l'objet des droits de l'homme. C'est donc l'homme dans son humanité la plus générale. Mais alors, si elle est la plus générale, elle peut être universelle. À la différence, par exemple, de Burke, ce n'est pas la déclaration des droits des citoyens français ou des citoyens anglais, si je prends le cas de Burke, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas d'une déclaration des citoyens anglais. Non, il s'agit des droits de l'homme en tant qu'homme. Et du citoyen aussi dans son abstraction, car le régime est aussi universalisable. Alors, le régime, ça s'appelle non pas démocratie, n'aime pas la démocratie. Le mot démocratie est très mal vu. CIS explique très bien que la démocratie, c'est pas ce que nous voulons, car la démocratie, c'est un État brut, primitif, originaire. Non, nous voulons le gouvernement représentatif.
Mais alors, dans cet universalisme, il va y avoir deux impasses. Enfin, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a déjà l'idée des femmes, mais elles n'y sont pas, et on va avoir cette déclaration.
Mais vous les auriez beaucoup étonnés. Vous les auriez stupéfiés si, en intervenant dans la Constituante, vous auriez dit, mais les femmes, vous ne les nommez pas, mais quand nous parlons de l'homme, nous parlons de l'humanité, pourquoi voulez-vous sexualiser? Évidemment, Olympe de Gouges va s'emparer de cet argument et va dire, c'est une déclaration masculine.
Oui, si je peux monter à l'échafaud, je peux en même temps avoir des droits. Et puis, il y a les esclaves.
Ah oui.
Lucien Jaume.
Mais qu'est-ce qu'il fallait dire? Que désormais, on ne doit plus admettre l'esclavage. Ça sera dit en 1848. Dans la Constitution de 1848, vous avez une déclaration des droits de l'homme qui est remarquable. Évidemment, l'esclavage.
Justine Lacroix, il y a 1794 et l'abolition de l'esclavage.
Oui, et l'abolition de l'esclavage, mais je voudrais juste revenir sur la question des droits des femmes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Lucien Jaume que dans la déclaration des droits de l'homme, c'est l'homme au sens générique. Et donc, il n'y avait pas nécessité de spécifier le sexe de la personne. Ceci étant, c'est vrai que même si les femmes vont obtenir un certain nombre de droits au cours de la Révolution, bon, qui seront repris par la suite, elles sont quand même écartées du suffrage dès 1791. Et d'où l'intérêt, peut-être pas tant théorique, mais l'intérêt pratique, historique, de la figure de l'âme de Gouges. Je ne dis pas l'intérêt théorique parce que son texte, qui est une déclaration réécrite, présente pas un intérêt philosophique incroyable. Mais il y a d'autres textes très importants, le texte de Nicolas de Condorcet, notamment, qui lui fait un plaidoyer pour l'octroi du droit de cité aux femmes. Et il y a d'autres figures importantes. Et puis,
CIS.
Pardon ?
C'est plus connu. CIS est féministe.
Ah, ça je ne savais pas, par contre.
À côté de Condorcet. Oui, CIS est féministe.
Je connaissais les textes de Condorcet, mais pas les textes de CIS, justement.
Parmi celles qui vont rester en mémoire, mais qui ne vont pas être appliquées, il y a celle de 1793. Et puis, il y a ce qui va rester, et encore aujourd'hui, en débat, c'est-à-dire le droit sacré à l'insurrection, Justine Lacroix.
Oui, alors là, c'est la déclaration de 1793 qui ne sera jamais appliquée, hein, puisque c'était la première section d'une constitution qui ne sera jamais appliquée en raison de la terreur. Et c'est vrai que c'est un texte très intéressant, c'est un texte très égalitaire, où on a la première amorce dit-on, de droits sociaux, puisqu'il y a une forme de droit au secours qui est prévue, droit à l'instruction, et qui termine effectivement par cette idée que l'insurrection contre l'oppression est un des droits les plus sacrés. Alors ce texte ne fait pas partie, n'a pas été repris comme la déclaration de 1789 dans la Constitution de la Ve République. Vous savez que le texte de 89 fait partie de la Constitution française, mais ça reste une référence très importante pour la gauche. Et comme vous le dites, effectivement, il ne faut jamais oublier dans l'efficacité ou la portée politique de ces déclarations, l'abolition de l'esclavage, les revendications de la révolution haïtienne, ce sont des éléments importants.
Lucien Jaume, quel était le contexte de cette deuxième déclaration et de cette deuxième constitution? Et concrètement, comment et pourquoi est-ce qu'on passe du droit qui est dans la déclaration de 89 de résistance à l'oppression à, 4 ans plus tard, le droit sacré à l'insurrection?
Oui, on passe aussi, d'après l'article 27, que tout citoyen s'opposerait au processus révolutionnaire, je cite, « soit à l'instant mis à mort par les hommes libres ».
Oui.
Blandine Crigel a dit que la terreur commençait dans cet article. C'est un peu excessif, mais l'esprit de la terreur est là. Dès que quelqu'un dévie, on pourra aussitôt, sans jugement bien entendu, le tuer.
Alors, pour les plus jeunes, la terreur, c'est quoi la terreur?
Alors la terreur, c'est un gouvernement d'exception qui a été décidé au mois de septembre 1793 de façon à armer la France contre ceux qu'on considérait comme hostiles au processus révolutionnaire, et on mettait beaucoup de gens là-dedans, les prêtres, les aristocrates, les bourgeois, une très grande quantité de personnes, et aussi pour lutter contre les coalitions ennemies venant d'Autriche ou d'Angleterre, puisque la France était encerclée à certains moments.
On ne peut pas comprendre la terreur sans l'idée de la patrie en danger.
C'est la ça patrie en danger. Dire. La terreur est une réaction à un danger extérieur, mais aussi
avec le sentiment qu'on n'est pas protégé par ceux qui dirigent.
On n'est pas protégé par ceux qui dirigeaient. Et d'autre part, c'est une radicalisation aussi vis-à-vis d'un certain nombre de gens que les montagnards et les jacobins définissent comme dangereux pour la Révolution.
Alors,
le contexte, c'est quand même, il faut dire deux mots.
C'est une bagarre politique terrible.
Alors, il faut dire qu'il y a une bagarre politique terrible lorsque la République est proclamée à la réunion de la Convention. Les Tuileries ont été envahies. Le roi Louis XVI a été suspendu. Des élections ont lieu, elles sont très étroitement contrôlées par les jacobins. Sortent de ces élections deux groupes qui sont tous les deux républicains et ardents républicains, mais qui vont lutter jusqu'à la mort. Le groupe des Girondins et le groupe des Montagnards.
Incarné d'un côté et de l'autre.
Alors le groupe des Girondins, vous pouvez penser à Brissot, vous pouvez penser à Condorcet, qui sera l'une des victimes, n'est-ce pas? Et pour le groupe des Montagnards...
Ou Olympe de Gouges.
Alors, Olympe de Gouges.
Qui sera également décapité à ce moment-là.
Guillotiné, oui.
Et pour le groupe des Montagnards, vous pouvez penser soit au chef des Jacobins, comme Saint-Just et Robespierre. Vous pouvez penser à d'autres leaders de la montagne. Ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, les Girondins écrivent une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est nettement plus radicale que la déclaration de 89. Mais le 31 mai et 2 juin 1993, les sections de Paris entourent la Convention, déclarent illégitime dans cette assemblée les 90 Girondins, les expulsent par la force avec l'accord du vote des Montagnards dirigés par Marat, lesquels Girondins sont emprisonnés et un peu plus tard, la plupart seront guillotinés. Cette déclaration des droits girondines qui a été parfois reproduite parce que c'est un très beau monument. Par exemple, ça, c'est le document de la rue Cadet, des francs-maçons, n'est-ce pas? Cette déclaration girondine est reproduite. Mais les Montagnards vont faire ensuite une autre déclaration qui s'inspire en partie de la déclaration girondine et du projet de constitution de Condorcet, qui était le leader intellectuel des Girondins, mais qui, par ailleurs, montre des tendances...
Et alors, ce sont ces circonstances qui font que... au fond, il n'y a que celle de 1789 qui est restée sur la longue durée et qu'on a un peu oublié, celle qui va parler justement de droits sociaux.
Mais je ne pense pas qu'on ait oublié celle de 1793. Hein. Comme je disais, je pense que c'est resté une référence quand même très importante dans l'histoire de la gauche. Par contre, il y a peut-être un autre texte qui est passé un peu à l'oubli, c'est celui de 1795. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même très en retrait, là, pour le coup, très en deçà de 1789. Il ne mentionne pas... donc, c'est le texte...
C'est la déclaration thermidorienne.
Oui, du 22 août 1795, hein, adoptée après la chute de Robespierre. Bon, il ne mentionne pas que les hommes naissent et demeurent... libre et égaux en droit. C'est normal, c'est dans une constitution qui établit le suffrage censitaire. Il n'y a pas de liberté d'opinion, d'expression, de conscience et tout ça. Et donc, je dirais...
Il y a des devoirs en plus.
Et il y a des devoirs, mais de formuler de façon très générale. Des devoirs d'être effectivement bon père, bon époux, d'être...
Justine Lacroix, c'est le recul de la Révolution.
Ben, là, je dirais que c'est très en deçà par rapport à 1789. 1793 était sans doute trop radical.
L'audace jacobine.
Voilà. Et 1789, finalement, qui est un texte qui est finalement très complet, un grand acte politique, mais qui réunit tout le monde, qui permet de réconcilier tout le monde et qui devient l'universel républicain ou la bannière dans laquelle tous peuvent se reconnaître.
Alors, on a évoqué ces trois déclarations, et notamment, évidemment, celle de 89. 93, qui est restée dans les mémoires de la gauche pendant longtemps, même jusqu'à aujourd'hui. 95, qui a été effacée. Mais au-delà de ces deux déclarations supplémentaires, la déclaration de 89, qui va rester le texte iconique, a été l'objet, depuis deux siècles maintenant, de critiques nombreuses. Alors, on a évoqué rapidement la critique, appelons-la féministe, en tout cas celle d'Olympe de Gouges ou de Condorcet notamment, mais il y a plusieurs autres critiques fondamentales qui vont être adressées à ce texte, et à commencer par les critiques contre-révolutionnaires ou traditionnalistes, Lucien Jaume.
Oui, la plus célèbre, c'est celle de Edmund Burke, qui, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas un conservateur, car il siège parmi les Whigs. Il n'est pas un Tory. Que dit Burke ? Il dit en deux mots, les droits de l'homme sont vrais métaphysiquement, mais l'application politique est dangereuse. Et évidemment, lui s'inscrit dans une tradition anglaise. Vous savez qu'il n'y a toujours pas de constitution écrite en Angleterre, n'est-ce pas ? Alors que nous, Français, nous fétichisons les textes. Il faut absolument écrire. Il faut mettre noir sur blanc. Il faut absolument codifier, toujours codifier. Burke dit... C'est la coutume d'un peuple qui compte.
Mais au-delà de la coutume, qu'est-ce qui, à ses yeux, fait que ces droits, appelons-les métaphysiques ou philosophiques, ne doivent pas ou ne peuvent pas être traduits dans la sphère politique ?
Parce qu'ils sont une source, et il a bien raison, ils sont une source de revendication contre la loi, contre les représentants. Et effectivement, le spectacle de la Révolution, c'est le spectacle d'un conflit permanent entre le peuple dans la rue et les assemblées. Conflit avec la Constituante, conflit avec les législatives, conflit avec la Convention. Si bien que celui qui va arrêter cela, c'est le sabre de Bonaparte.
Hannah Arendt dira que cette déclaration de 89 ouvre le droit au droit. Qu'est-ce que vous en pensez, Justine Lacroix ?
Alors, Hannah Arendt n'a pas exactement dit ça, si je peux me permettre. Elle a dit qu'elle estimait qu'il y avait au cœur de cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens une contradiction ou un paradoxe entre l'article 1er qui dit « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », ce qui semble indiquer que tous les hommes ont des droits, quelle que soit leur appartenance, et puis l'article 3 qui nous dit « le principe de toute souveraineté réside dans la nation ». Et ce qu'Anna Arendt a appelé le paradoxe des droits de l'homme, et je vais venir au droit à avoir des droits, ce qu'elle appelle le paradoxe ou la contradiction des droits de l'homme, c'est qu'en même temps, on proclame des droits censés valoir pour tout homme, et en même temps, la souveraineté nationale absolue. Et elle dit le paradoxe, c'est donc que celui qui est privé d'une appartenance nationale, privé de l'appartenance à une citoyenneté spécifique, et quand elle écrit ça, elle a en tête le cas des apatrides, hein, de l'entre-deux-guerres, eh bien celui-là se retrouve sans droit.
Et de là, dit-elle, en réalité, la condition pour avoir des droits, le premier des droits de l'homme, c'est le droit d'appartenir à une communauté politique, si vous voulez.
Je reviens d'un mot, Lucien Jaume, sur la critique. Vous avez évoqué la critique de Burke, qui était oui. effectivement un libéral, mais il y a aussi une critique anti-révolutionnaire, oui. contre-révolutionnaire,
absolument.
Qui va irriguer la politique française pendant un siècle.
Absolument. Et évidemment, on pense à Joseph de Maistre, qui écrivait qu'il n'avait jamais rencontré l'homme en soi. Je cherche le texte de
Lucien Jaume. Consulte Joseph de Maistre.
Voilà, je compte.
Dans le texte.
De Maistre écrit « La constitution de 95, tout comme ses aînés, est faite pour l'homme. » Et il souligne « Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. L'abstraction... Voilà la grande critique de droite et de droite contre-révolutionnaire, l'abstraction des droits de l'homme. Les hommes concrets sont différents d'une simple caractérisation générale. Voilà le grand thème opposé à la Révolution française.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Alors, Justine Lacroix, après cette critique traditionnaliste et contre-révolutionnaire, il y a la critique, disons, de gauche ou marxiste, et oui. Karl Marx a beaucoup écrit, on pense justement à ces textes où, en gros, il dit que les bourgeois de la Révolution, ou qui auraient fait la Révolution, ont oublié le fait social, les droits sociaux.
Oui, c'est une critique très différente, effectivement, de la critique contre-révolutionnaire, puisque, au fond, ce que Marx va dénoncer est très jeune, hein, d'ailleurs, puisque le premier texte qu'il publie...
C'est la question juive, oui, 1844.
Sur la question juive, en 1844, au fond, il nous dit... Bon, voilà, ces droits qu'on nous présente comme les droits universels de l'individu abstrait, en réalité, ils servent les intérêts d'un type social très particulier, c'est celui du bourgeois propriétaire, si vous voulez, c'est l'individu possessif du capitalisme. Ce qu'il reproche à la déclaration, c'est son individualisme, c'est la sacralisation du droit de propriété, et aussi le fait que, dans la déclaration, selon la lecture qu'il en fait, il dit au fond, les autres sont toujours vus comme des obstacles, les autres hommes, comme des obstacles à notre liberté, alors que pour Marx, l'individualisme véritable ne se développe que en coopération les uns avec les autres. En même temps, il faut quand même garder à l'esprit que Marx n'a jamais proposé de revenir en deçà des droits proclamés par la Révolution, même sur la question juive, il précisait, il disait l'émancipation politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui improprement les révolutions démocratiques, parce que personne ne pensait à la démocratie, mais enfin disons les grandes révolutions du XVIIIe siècle, dit l'émancipation politique, c'est un grand progrès. Mais ce n'est pas l'émancipation humaine, parce que, en raison de cette division, si vous voulez, entre une émancipation politique et puis une société civile qui reste dominée par l'égoïsme.
Mais c'est quand même, justement, à partir de cette déclaration qu'on va arriver à de nouveaux droits qui n'avaient pas été pris en compte au moment oui. de la Révolution française, en particulier le droit d'association, le droit syndical, d'une certaine manière, oui, oui. va naître de tout ça.
Oui, alors en même temps, Marx, il avait en tête, évidemment, au moment où il fait sa critique, notamment la loi Le Chapelier, il le dit au début du Capital, il dit, regardez
la loi Le Chapelier qui interdit
les organisations ouvrières.
Les corporations, ce qu'on appelait les corporations.
Les corporations. Il dit, regardez, cette révolution, elle vient à peine de proclamer la liberté d'association qu'elle interdit les organisations ouvrières. Ce que Marx n'a pas vu, et là, ce n'est pas moi qui parle, c'est le philosophe Claude Lefort qui a refait une lecture, notamment, de la critique de Marx. Il dit, au fond, ce qui est intéressant, c'est ce que Marx n'a pas vu. Il n'a pas vu l'efficacité symbolique de cette notion de droit. Il n'a pas vu comment, au fond, cette déclaration, elle allait échapper à ses rédacteurs et qu'allait s'emparer de cette déclaration des peuples colonisés, des esclaves, des femmes, des tas de gens qui n'étaient peut-être pas prévus dans les intentions des rédacteurs. Et donc, il y a eu tout un courant au-delà de Marx qui s'est développé, qu'on appelle le socialisme libéral. On peut penser à la figure de Jean Jaurès aussi, qui l'a dit explicitement dans certains textes, où il dit « je sais bien que cette déclaration est le produit de la bourgeoisie, mais très vite, les mots ou le texte allaient échapper aux intentions initiales et donc peut-être que Marx a manqué ce potentiel révolutionnaire de la déclaration.
On va le voir au moment des combats anticoloniaux, puisque quelqu'un comme Ho Chi Minh ou Meseliadj vont se référer à cette déclaration des droits pour dire on a nous aussi le droit à l'autodétermination.
Exactement.
Et on a des droits aux droits.
Oui, et donc c'est intéressant de voir comment, au fond, ça renvoie à la force d'un texte.
Lucien Jaume.
Parallèlement à la critique faite par Marx, on constate dans le fascisme italien une critique permanente de la déclaration de 89. Je travaille actuellement sur le fascisme italien et notamment sur le philosophe de Mussolini qui a écrit peut-être 30 ou 40 volumes. Ce philosophe s'appelle Giovanni Gentile. Et l'individu...
Zev Sternel en a beaucoup écrit justement sur son livre sur les antilumières. Il souligne tout ça. Et...
L'individu, le citoyen, n'existe que dans l'État et par l'État, dit Gentile. Nous sommes les vrais libéraux. Il a le culot d'écrire un article. Et il mit au libéralisme, mon libéralisme à moi... C'est l'État qui, par sa force, donne aux citoyens la liberté, la puissance d'agir. Et donc, c'est une critique du côté de l'extrême droite qui, là aussi, dit que l'individu doit être associé, mais associé au sens fasciste. C'est-à-dire, cet individu est l'instrument de l'État et de l'impérialisme.
Et une association de capital-travail, la fameuse association...
Les corporations, alors.
Où le patron et l'ouvrier sont censés défendre les mêmes intérêts, puisque c'est un peu ça le fascisme.
Le corporatisme fasciste, il y a
d'immenses... En France, le colonel Delarocque se fera le porte-parole de cette
option politique. D'ailleurs, ils ont échoué dans leur tentative de corporatisme en Italie. Mais c'est très intéressant. Pour eux, ils le disent, c'est un dépassement de l'individualisme de la Révolution française. Nous rejetons la déclaration des droits de l'homme et du citoyen... Parce que c'est une déclaration qui atomise la société. Nous devons faire l'unité de la nation italienne.
Mais Justine Lacroix.
Oui, mais ça montre, ce rappel que fait Lucien Jaume, c'est intéressant. Ça montre vraiment comment la déclaration de 1789 a vraiment structuré toutes les luttes politiques. Au-delà de la France, bien au-delà de la France, pendant 200 ans. En 1917, certains disent que 1917, la Révolution russe, c'est l'accomplissement des promesses de la Révolution française. On se réclame de 1789 et le fascisme manifeste ouvertement la volonté de liquider 1789.
Oui, on reprend le vocabulaire. La Révolution russe va reprendre tout ce vocabulaire
exactement.
De la Révolution française.
Et donc là, on sent vraiment... Toute l'histoire, je crois... d'abord, moi, je ne suis pas française, donc je ne peux pas être accusée de francocentrisme. Mais toute l'histoire européenne, les luttes politiques depuis 200 ans sont incompréhensibles si on ne revient pas à ce texte.
Trotsky parlera de Staline comme un thermidorien.
Voilà.
Mais puisque vous évoquez cette postérité de la déclaration de 89, et, enfin, en tout cas, de cette philosophie des droits de l'homme et du citoyen, pourquoi est-ce que... Et je vous pose la question, puisque précisément vous n'êtes pas française, pourquoi est-ce que c'est cette déclaration française qui a, au fond, irradié ou irrigué dans le monde entier et pas, par exemple, la déclaration américaine ?
Justine Lacroix.
Alors, c'est une question compliquée. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, mais je donnerai peut-être quelques hypothèses. C'est-à-dire que... Et là, peut-être, je reviendrai de nouveau à l'ouvrage de Marcel Gauchet sur la révolution des droits de l'homme. La situation est très différente dans ce qui ne s'appelle pas encore ce qui va s'appeler les États-Unis. On a 13 colonies, quand même, excentrées.
On est en 1776.
Hein. 1776, oui, qui se révoltent contre les projets d'imposition fiscale de la métropole. Hein. La métropole, c'est la Grande-Bretagne. Et donc, on a, au fond, des peuples qui luttent pour imposer des limites au pouvoir royal et proclamer leur indépendance. Et d'ailleurs, on parlait d'Edmund Burke tout à l'heure, qui a été un violent critique, le plus violent critique de la déclaration de 1789, mais qui, au début, soutient... plutôt la révolte des colons contre la Grande-Bretagne. Et donc, là, on est plutôt dans un cas qui lutte contre, au fond, l'empiètement du pouvoir. Il me semble qu'en 1789, il y a quand même cette volonté de table rase, cette volonté de fonder un nouveau régime politique, une nouvelle forme de légitimité politique qui est susceptible, évidemment, de bouleverser toute la carte géopolitique de l'Europe, puisque,
C'est toutes les monarchies qui sont contestées dans leur principe même.
Oui, bien sûr, oui, c'est tous les États qui sont menacés, déstabilisés.
En complément, j'ajouterais que la très grande différence entre l'esprit de la déclaration de 89 française et l'esprit des Bill of Rights américains et du constitutionnalisme américain, c'est le pouvoir judiciaire. Car aux États-Unis, dès avant le fameux arrêt Marbury versus Madison sur le contrôle de constitutionnalité...
1803.
C'est-à-dire l'examen de la conformité de la loi votée par le Congrès par rapport aux droits fondamentaux et par rapport à la Constitution. Les Français l'ont refusé jusqu'en 1971, au moins. Les Français ne voulaient pas d'un pouvoir judiciaire qui, en quelque sorte, se mettrait au-dessus de la souveraineté nationale.
Sieyès l'avait proposé.
Il a proposé en l'an 3, en Thermidor en 3, en 1795. Et savez-vous combien de voix il a eu dans la Convention ? Zéro. Pas une seule voix. Pas une seule.
Il voulait... alors que c'était un des grands... comment dire, inspirateur, en absolument. Tout cas, de l'ensemble de cette démarche.
Absolument, absolument.
Zéro voix.
La loi étant l'expression de la volonté de la nation, la loi est l'expression de la volonté générale, dit la déclaration de 89, nul ne peut se mettre au-dessus de la loi pour la comparer aux droits fondamentaux et à la Constitution. Or, en Amérique, le fédéraliste, avant même de cet arrêt de 1803, le fédéraliste, le document qui fait la publicité de la Révolution américaine, le fédéraliste dit il faudra instituer un pouvoir judiciaire qui garantira que les lois votées par les représentants, c'est très actuel, qui garantira que les lois votées par les représentants n'insultent pas les droits du peuple.
Avec tous les débats qu'on connaît actuellement entre les États-Unis, Israël, la France... Qu'est-ce qu'on introduit ou pas dans la Constitution et qu'est-ce que le Conseil constitutionnel regarde
nous pas. Nous avons fait une grande révolution en 2008. Merci, Monsieur Sarkozy. La QPC, la question préalable
de constitutionnalité.
De constitutionnalité. Puisque tout citoyen en France, par l'intermédiaire d'un avocat, peut, à l'occasion d'un procès, demander que soit vérifiée la constitutionnalité d'une loi qui a peut-être 10 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans, dans le cas concret. Et nous savons que cette demande s'adresse soit au Conseil constitutionnel, soit au Conseil d'État. Voie administrative, voie politique.
On a fait un grand bond en avant, là, dans le temps.
Oui, grand bond en avant.
Mais je voulais quand même revenir sur la manière dont cette déclaration de 89 s'est inscrite dans l'histoire institutionnelle et constitutionnelle française. Voilà, sous la Troisième République, c'était le catéchisme national enseigné aux petits écoliers. Sous la Quatrième et la Cinquième, on le disait en introduction, c'est une référence explicite des deux constitutions. Vous évoquiez, dans le préambule en tout cas...
C'est un texte philosophique à l'époque. Il n'a aucune valeur
opératoire. Et vous évoquiez à l'instant la décision du Conseil constitutionnel de 1971, qui, pour la première fois, inscrit le texte de la Déclaration des droits de l'homme dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Que le Conseil peut donc invoquer contre une loi.
Absolument.
Ou en faveur d'une loi. Alors, oui.
Justine Lacroix.
Non.
Moi, j'avais rien. J'approuvais simplement.
Comment expliquer cette étonnante vitalité, au fond, de la déclaration qui devient une source de droit permanente ?
C'est le dynamisme. Les droits de l'homme, c'est une dynamique. Philosophiquement, c'est une source extraordinaire.
C'est sans fin.
C'est sans fin, puisque nous le voyons dans les textes postérieurs de 1948 et de 1950, dans le cadre européen. L'extraordinaire complexité maintenant des textes européens, n'est-ce pas ? Nous voyons que les droits de l'homme peuvent descendre à des questions infinitésimales. C'est sans fin.
Je crois que c'est lié au caractère.
Justine Lacroix.
Caractère à la fois. Le texte, il est à la fois très précis et très indéterminé. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'indétermination dans ces droits de l'homme. Et la signification qu'on va être amené à donner à certains articles va évidemment... Enfin, on peut parler d'indétermination, mais pas dans un sens péjoratif. Il y a une forme d'élasticité aussi de la déclaration.
Et du coup, de modernité.
Absolument.
Et du coup, qui permet évidemment...
Qui permet une modernité.
Qui permet une modernité. Et puis, ça permet aussi des appropriations politiques différentes. Et ça, je crois que... Enfin, moi, c'est comme ça que je concevrais la déclaration des droits de l'homme. C'est pas un catalogue extrêmement précis qui nous dicterait très précisément ce qu'il faut faire. Ça peut faire l'objet d'interprétations politiques très différentes et qui vont entrer en conflit sur la signification à donner, évidemment, à la liberté, à l'égalité, à la résistance.
Vous avez le droit au congé payé dans la déclaration de l'ONU de 1948. Le droit au congé payé.
Arrêtons-nous juste un instant sur cette déclaration de 1948. En quoi est-ce que la déclaration de 89 peut être considérée au fond comme une sorte de matrice de cette déclaration de l'ONU, hein, donc universelle?
Il suffit de lire le texte, de comparer certains articles avec les articles de 89, il y a une inspiration évidente.
Et alors maintenant, il y a quand même de nouvelles formes de critiques, puisque c'est un universalisme qui n'est pas, je dirais... accepté par tous. On a une déclaration de l'homme musulman, par exemple, avec l'organisation des États islamiques qui remet en cause cette idée que on pourrait avoir une liberté, par exemple, de parole, de critique de la religion qui pourrait en elle-même atteindre à la dignité d'un croyant.
Oui, alors là, je crois quand même qu'il faut distinguer dans ce que vous appelleriez une critique culturelle les instrumentalisations qui peuvent être faites de la culture par un certain nombre de dirigeants ou de potentiels dirigeants, parce que on constate... Alors, peut-être que les droits humains, la Déclaration des droits de l'homme, c'est un langage parmi d'autres pour exprimer le refus de toute forme de domination. Mais bon, on constate quand même qu'en de nombreux points du globe, que ce soit aussi bien dans les pays arabo-musulmans que dans les pays asiatiques, là où ces droits sont invoqués, revendiquées aussi dans des mouvements populaires.
Ça reste un texte de résistance d'une très grande actualité, c'est ça que vous voulez dire, Justine
Lacroix? Pas forcément le texte de 1789, mais la référence, effectivement, à l'idée qu'il existerait quelque chose comme un droit universel de l'homme à la liberté. Et
vous voyez ce qui se passe en Iran?
Mais précisément, l'une des questions clés que vous évoquiez dans qu'on évoquait précédemment dans la critique contre-révolutionnaire, c'est le rapport à la religion.
Bien sûr.
Et là, on a aujourd'hui, alors Didier Leschi évoquait cette déclaration universelle des droits de... Comment s'appelle-t-elle? Déclaration islamique universelle des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut faire le parallèle, au fond, entre la critique de Joseph de Maistre et cette critique actuelle du monde musulman?
Alors, le parallèle s'établit sur le plan de la domination par la théologie.
C'est ça, c'est Dieu qui est la source de la loi.
Chez Joseph de Maistre, la souveraineté est une chose divine. Donc il faut un roi de droit divin. Et chez Bonald aussi, il y a une théorie du pouvoir qui récuse totalement l'individualisme. Mais la meilleure réponse en France à la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme, c'est la charte des principes pour l'islam de France, élaborée en 2021... par les associations musulmanes, et qui est sur le site de la mosquée de Paris, et que j'ai reproduit à la fin de mon livre, « L'éternel défi, l'État et les religions en France », c'est la meilleure réponse. C'est-à-dire, ils expliquent qu'ils acceptent totalement les droits de l'homme, qu'ils acceptent totalement l'égalité de l'homme et de la femme, qu'ils acceptent totalement la charte européenne des droits, que pour un musulman, il n'y a aucun problème à accepter tous ces éléments, y compris la République, et que le reste, c'est une manipulation, en effet, une manipulation politique, pour la domination politique, qui n'engage pas, en fait, l'islam. Je suis très content qu'il y ait ce débat au sein de l'islam.
Bien sûr, la difficulté, c'est que c'est la troisième de ce type signée par à peu près les mêmes responsables musulmans, et que le problème, c'est de savoir comment cette déclaration, ou cette déclaration d'intention, arrive à passer de l'autre côté de la Méditerranée. On revient sur la question de l'universalisme.
En particulier
autour de l'idée que chacun est libre de croire ou de ne pas croire. C'est ça le problème de fond.
Oui, mais...
Laïcité.
Mais encore une fois, moi, je suis un petit peu mal à l'aise quand on invoque cette idée que finalement, cette déclaration ne voudrait que pour 5% de la population mondiale. Parce qu'il me semble vraiment que l'argument de la diversité...
C'est pas qu'elle ne vaudrait que pour 5%. C'est la manière dont partout, oui, elle est reprise en charge, par exemple, dans un texte constitutionnel, où elle est aujourd'hui un document de résistance par rapport à des pouvoirs qui restent profondément hostiles. On peut parler du monde musulman, mais par exemple, on pourrait parler de la Chine, par exemple.
Oui, les dirigeants chinois ont beaucoup, justement, utilisé cet argument selon lequel les textes de la déclaration de 1789 ou de 1948 étaient des textes occidentaux qui ne correspondaient pas aux valeurs asiatiques et tout ça. C'est démonté. Cet argument, si vous voulez, a été démonté par un certain nombre d'intellectuels chinois, mais qui montrent très bien que l'argument de la diversité culturelle, c'est aussi une manipulation et une instrumentalisation pour faire taire les contestations. Alors, il ne s'agit pas évidemment de dire que le langage de la déclaration 1789 est transposable tel quel. Chaque civilisation, chaque culture peut s'approprier les valeurs universelles qu'elle exprime de façon différente. Mais il n'en reste pas moins cette aspiration au refus de la domination et cette aspiration à la liberté.
Mais la situation est grave parce que la notion même de valeur universelle est remise en question. Si vous écoutez les idéologues de Poutine, je viens d'en lire un, c'est très, très clair. Si vous écoutez Xi Jinping, je viens de lire que l'université, selon Xi Jinping, ce sont les ingénieurs de l'âme, comme disait jadis sous Staline Jdanov, n'est-ce pas ? Ingénieur de l'âme, il a repris la formule de Jdanov, etc.
Mais sans aller aussi loin que la Chine ou la Russie.
Ou l'Iran,
en Europe.
Oui.
Un certain nombre de régimes ou de responsables, qualifions-les de...
Illibéraux.
Alors, c'est une notion un peu curieuse de parler de démocratie libérale, mais en tout cas de populistes ou d'autocrates ou d'apprentis autocrates considèrent également que les contraintes qui découleraient d'une déclaration des droits... Par exemple, la séparation de la justice et du pouvoir, ou des choses comme ça, sont au fond tout à fait superfétatoires.
Je crois que c'est le phénomène majeur dans l'histoire des droits de l'homme qui s'est produit depuis 20 ans. C'est-à-dire que si on se reporte au début des années 2000, les déclarations des droits, en tout cas dans le cadre de l'Union européenne, l'état de droit faisait l'objet d'un consensus. C'était presque quelque chose que personne ne pouvait contester ouvertement. Alors ça ne veut pas dire qu'on respectait partout les droits de l'homme, mais on ne pouvait pas
se revendiquer. Il y avait encore une force propulsive très forte.
Oui, et puis il y avait une sorte de tabou, quoi. C'était vraiment quelque chose qu'on ne contestait pas. Or, ce qui est vrai, que c'est le phénomène nouveau depuis 20 ans, c'est qu'on a vu émerger, et même au sein de démocraties anciennes, États-Unis, ou nouvelles, mais qu'on pensait bien établies, comme la Pologne, la Hongrie, des dirigeants, mais qui assument leur volonté de s'émanciper des droits fondamentaux. Et donc, avec cette idée, au fond, très, très inquiétante, que finalement, les droits de l'homme sont un obstacle à la capacité d'agir et sont un obstacle surtout à l'affirmation de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire. Une contestation de plus en plus importante, et ça même dans nos pays, même en France, surtout du pouvoir des juridictions internationales, je pense ici à la Cour européenne des droits de l'homme notamment, et puis cette opposition paresseuse, à mon sens, entre liberté et sécurité, en disant bon, c'est très bien, mais on peut plus, la protection des droits de l'homme est un luxe que nous ne pourrions plus nous permettre. Donc oui, ça c'est très certainement, il y a eu un phénomène de backlash, comme on dit, contre les... Contre
paradoxalement, les ça veut dire que la Révolution française reste un objet chaud et que c'est aussi autour d'elle qu'on peut s'adosser pour continuer à défendre des droits, Lucien Jaume.
Oui, certainement. Je crois que, personnellement, j'ai participé à un grand enthousiasme en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Claude Lefort d'un côté, François Furet, Marcel Gaucher, etc. Philippe Reynaud, etc., etc. Nous étions enthousiasmés par l'élan du bicentenaire et nous avons tous contribué dans la mesure de nos forces, je considère que c'est beaucoup, beaucoup retombé. Et je pense qu'en effet, il faut revenir à cette étude. Mais moi, pour ma part, je travaille sur le fascisme italien, car beaucoup de phénomènes que je vois aujourd'hui sont absolument proclamés, reconnus, défendus par les idéologues du fascisme italien dans les années 22, 25, 30, etc. Qui de plus ajoute Mussolini notamment, mais et Gentile et tous ceux qui l'entourent, le fascisme est une religion. Je veux dire que la manipulation de la religion pour une guerre qu'on déclare juste, vous voyez à quel pays je pense, hein ? Vous voyez le pays où le chef suprême du religieux s'allie au chef politique et déclare « si vous allez vous battre en Ukraine, vous laverez vos péchés ». Mais c'est dans le fascisme.
Je trouve ça très intéressant ce que dit Lucien Jaume, parce que bon, je n'ai pas travaillé là-dessus de près, mais on parlait de populisme il y a un instant. Alors ça va peut-être nous... Je trouve que c'est un terme qui est pas du tout opératoire, enfin qui est très peu opératoire pour saisir ce qui se passe. Alors, Par contre, le fait qu'il y ait certaines résurgences de phénomènes qu'il faut bien qualifier de fascistes, mais je ne sais pas pourquoi on n'ose pas le dire, me paraît quand même une intuition
oui,
plus forte.
Parce qu'on a beaucoup utilisé l'appellation fasciste. Je sais que la Sciences Po, il y a des controverses là-dessus. À tort et à travers, certains professeurs souffrent d'être désignés comme fascistes alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et en effet, du coup, le mot est devenu un peu tabou.
Est devenu un peu tabou alors qu'effectivement...
Ouais. Alors qu'en réalité, le fascisme italien a été d'une très grande richesse. Les textes sont extraordinaires, horribles bien entendu de mon point de vue. Hein. J'en fais pas l'éloge. Hein. Mais d'une très grande richesse et nombre de phénomènes d'aujourd'hui je ne dis pas que le fascisme va revenir. Ce que je dis, c'est que nombre de phénomènes qui ont permis un régime niant les droits de l'homme à l'extrême droite sont présents aujourd'hui.
Gérard Courtois, que vous inspire cette discussion ?
Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Hein. Ce qui me frappe au fond, c'est que, alors, d'un point de vue très français, mais c'est une déclaration française au départ, c'est que on brocarde volontiers l'instabilité institutionnelle française, la douzaine de régimes que nous avons connus depuis 1789.
15.
Ah, moi j'en ai compté que 12.
Moi j'ai compté 15 constitutions. Parce qu'il y a les actes de Napoléon.
Ah oui, oui, vous raffinez, vous raffinez. c'est oublié quand même que depuis plus de 2 siècles, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est resté le socle de toute notre construction démocratique. Alors, ça n'en fait pas un texte iconique, gravé dans le marbre des républiques, mais ce manifeste, et on terminait là-dessus notre conversation avec cette comparaison ou cette référence au fascisme, ce manifeste de la modernité politique continue à être une source vivante de droit, que ce soit en France ou dans le monde, à travers les multiples conventions, on les a pas évoquées, qui ont découlé de la Déclaration universelle dans des tas de domaines, et des multiples jurisprudences qui ont découlé de la Convention européenne des droits de l'homme depuis 70 ans. Et face à toutes ces remises en cause, le principe posé par les constituants, les députés de 1789, reste, me semble-t-il, une exigence fondamentale, et on l'évoquait à l'instant, sans individus libres et égaux, c'est-à-dire sans droits de l'homme, il n'y a pas de démocratie.
Merci Justine Lacroix, merci Lucien Jaume.
Merci.
Merci à vous.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était les manifestes qui ont changé le monde. Une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky, préparée par Seam Boutata, prise de son Manuel Couturier, réalisation Guillaume Baldi. Demain, Simon Bolivar et le manifeste de Carthagène.